Vous écoutez la série Balado, l'itinérance en temps de pandémie, produite dans le cadre de l'étude sur la réorganisation des services institutionnels et communautaires en itinérance et les besoins des personnes en situation d'itinérance pour faire face à la pandémie de Covid-19. Cette étude est menée par les professeurs Céline Bello, Suanne MacDonald, Elisabeth Gressler, Caroline Grimard et Marie-Ève Goyer de l'Université de Montréal, Philippe Benoît Côté de l'Université du Québec à Montréal et Annie Fontaine de l'Université Laval. Cet épisode porte sur la thématique de la visibilité de l'itinérance qui s'est accrue en temps de pandémie. Guylaine Racine, professionnelle de recherche sur le projet, questionne Stéphanie Wood, coordonnatrice du projet.
Bonjour Stéphanie.
Bonjour Guylaine.
Merci bien d'être là aujourd'hui dans notre balado pour échanger sur le thème de la visibilité en itinérance pendant la pandémie. Les données qu'on a recueillies au cours de la dernière année et demie dans le cadre de l'étude nous ont amené à constater une plus grande visibilité de l'itinérance à divers égards. En fait, les gens nous mentionnaient beaucoup toute la question de la visibilité. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce qui a contribué à l'augmentation de la visibilité de l'itinérance?
Bien, d'abord, c'est important de se remettre en contexte. Avec l'arrivée de la pandémie au pays en mars 2020, le gouvernement du Québec a ordonné un premier grand confinement. Donc, la fermeture des écoles, des services et des commerces non essentiels, le télétravail qui était obligatoire quand c'était possible, etc. Donc, bien, résultat, l'espace public s'est retrouvé presque complètement désert, à l'exception des personnes en situation d'itinérance. Et des forces de l'ordre, là, donc ça donne un heureux mélange. Donc juste ce contexte-là, bien, ça a fait en sorte que les personnes en situation d'itinérance sont devenues plus visibles que jamais en étant seules dans les rues, malgré le fait qu'une bonne proportion de ces personnes-là étaient paradoxalement considérées dans le jargon comme en situation d'itinérance visible auparavant, donc des personnes qui occupaient l'espace public, qui y vivaient aux yeux de tous. Donc ça, c'est un premier point. Parallèlement à ça, le confinement a fait en sorte que c'était pas permis de recevoir à domicile des visiteurs. Donc, les personnes en situation d'itinérance cachée, qui se débrouillaient auparavant en squattant chez des membres de leur famille, chez des amis, des connaissances, ben, elles étaient plus en mesure de le faire. C'est donc aussi ces personnes-là qu'on retrouvait nouvellement à la rue ou en tout cas qui cognaient aux portes des ressources d'hébergement. Par contre, puis ça, c'est un autre élément qui peut avoir contribué à l'augmentation de la visibilité de l'itinérance, les ressources d'hébergement, elles ont dû diminuer leur nombre de places, leur nombre de lits, à cause des règles sanitaires en vigueur, et donc réduire significativement leur capacité d'accueil, voire dans certains cas, de ne plus admettre de nouvelles personnes. Puis ça, ça a amené aussi là, à avoir des personnes qui n'avaient plus d'endroit où aller. Et pour contrer cette baisse de capacité d'accueil dans les ressources d'hébergement, ben il y a toutes sortes de refuges puis de halles chaleur qui ont été mis sur pied pour accueillir les gens. Puis ça, ben ça va être l'objet d'un autre balado, donc on va pas entrer dans tous ces détails-là aujourd'hui. Mais c'est important de souligner que ces diverses mesures d'urgence-là qui ont été mises sur pied, ça a été mis sur pied dans des bâtiments puis dans des secteurs qui étaient pas au préalable destinés à recevoir ce genre de services pour des personnes en situation d'itinérance. Donc, on parle de sous-sol d'église, d'aréna, de stade de sport, de gymnase d'école, d'hôtel, etc. Ce qui a fait qu'on a assisté à un déplacement, puis parfois une concentration des personnes en situation d'itinérance dans des coins où on n'était pas nécessairement habitué de les voir. À ça s'ajoute le fait que certaines personnes ne voulaient pas, pour toutes sortes de raisons, aller vers les services. Puis ça a provoqué l'apparition de campements plus imposants et donc plus visibles qu'à l'habitude. Des gens qui dorment sous des ponts, dans des abris de fortune, pardon, dans des tentes, etc., bien, il y en a toujours, pandémie ou non. Mais là, avec la pandémie, bien, le phénomène a pris de l'ampleur dans plusieurs villes du monde, mais aussi au Québec, on n'a pas fait exception à ça. Et finalement, ben toute cette visibilité-là au sein de la communauté, ben ça a aussi été amplifié par un traitement médiatique qui a été plus important, entre autres au sujet des refuges d'urgence, des haltes chaleur, des campements. Donc voilà pour le premier élément.
Donc si je comprends bien, quand on parle de visibilité, il y avait donc des personnes qui étaient soit en situation d'itinérance visibles ou cachées qui sont devenues encore plus visibles pendant la pandémie. Est-ce que, par ailleurs, il y a des nouvelles personnes qui se sont retrouvées en situation d'itinérance pendant ou à cause de la pandémie? Autrement dit, est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion qu'il y a une plus grande visibilité de l'itinérance rime avec plus de nouveaux visages en itinérance?
C'est une question complexe pour laquelle, évidemment, il n'y a pas de réponse simple. Premièrement, c'est important de souligner que l'étude n'était pas dans une optique de dénombrement et donc on n'est pas en mesure d'affirmer ou non s'il y a plus de personnes en situation d'itinérance. Mais les entrevues réalisées ont quand même permis de soulever des hypothèses puis de faire différents constats par rapport à cette question-là. Pendant les périodes de collecte de données de la recherche, plusieurs acteurs ont parlé d'augmentation des demandes de services, mais pour des personnes qui étaient déjà connues. Par exemple, on nous a dit « ben les personnes qu'on connaît déjà nous demandent toutes de l'aide en même temps, alors qu'habituellement, ben il y a des va-et-vient dans les demandes d'aide. » Mais c'est pas vraiment des nouvelles personnes. Donc ça, c'est une chose. D'autres mentionnent clairement que les nouveaux visages, ben ils proviennent tout simplement de d'autres régions, de d'autres secteurs, mais que ce sont pas des personnes nouvellement en situation d'itinérance. Donc ce serait plutôt une mobilité ou un déplacement de l'itinérance. Puis ça, ben c'est présent au-delà de la pandémie, mais peut-être que la pandémie a pu accélérer les choses ou amplifier les choses, on n'est pas en mesure de le dire. Paradoxalement, il y a certains acteurs qui nous ont plutôt dit que ben, les personnes qui fréquentaient nos services, ben, on ne les voit plus. Donc, plutôt des personnes qui sont disparues. Mais là, est-ce que ça, c'est lié au point précédent de la mobilité, que ces personnes-là sont juste parties ailleurs? Ou c'est des personnes qui ont été judiciarisées, donc qui sont en prison, ou elles ont trouvé d'autres stratégies pour subvenir à leurs besoins? Puis cette dernière option-là, ou cette dernière hypothèse-là, bien, ça amenait beaucoup de craintes chez les acteurs, surtout ceux des ressources pour femmes et pour jeunes. On redoutait que les personnes, bien, elles restent dans des milieux qui sont pas sécuritaires ou pas adéquats, plutôt que d'aller vers les ressources par crainte d'attraper le virus, par exemple. Et de manière plus marginale, on nous a dit « oui, on voit des nouvelles personnes », qui avait une situation économique et résidentielle précaire quand même avant la pandémie, puis qui n'ont pas été en mesure de se maintenir en logement. Puis les exemples qu'on a eus par rapport à ça, ben c'est des personnes qui ont vécu une perte d'emploi qui était déjà précaire, donc des gens qui travaillaient au noir, ou ben des expulsions de logement et que les personnes n'ont pas été capables de se relocaliser à cause, entre autres, du prix des loyers qui a explosé. On nous a aussi rapporté que certaines personnes étaient nouvelles dans les ressources d'hébergement, mais qui étaient quand même auparavant en situation d'itinérance cachée, que c'était des gens qui étaient peut-être connus des travailleurs de rue, tu sais, qui squattaient à certains endroits plus reculés. Donc, plusieurs acteurs hésitaient à parler d'augmentation en nombre de l'itinérance, mais n'étaient pas en mesure, selon eux, d'avoir un regard global sur la situation. Par contre, au moment où on se parle, c'est-à-dire à l'automne 2021, la situation semble s'être détériorée et selon les échos qu'on a du terrain, ben c'est qu'il y a vraiment plus de personnes en situation d'itinérance. On peut se demander si on ne fait pas face aujourd'hui aux craintes qu'on entendait de la part des acteurs quelques mois après le début de la pandémie, comme quoi on n'avait pas fini de voir les impacts de la pandémie sur les personnes vulnérables. Avec la recherche, on voyait plus les effets directs, là, c'est-à-dire à court terme de la pandémie. Et maintenant, ben, on fait face aux impacts, donc aux effets qui sont un peu plus à long terme. Donc, est-ce que, si je reviens à la question de départ, est-ce qu'une plus grande visibilité rime avec de nouveaux visages? Ben, la réponse, c'est oui et non. En fait, il y a des nouvelles personnes en situation d'itinérance depuis la pandémie, qui contribuent à l'augmentation de la visibilité de l'itinérance. Mais il ne faut pas perdre de vue qu'il peut aussi y avoir une question de mobilité, de déplacement des personnes ou de personnes qui sont plus en mesure d'utiliser leur stratégie de survie habituelle qui viennent maintenant cogner aux portes des organismes d'aide. Donc voilà de manière très résumée pour cette question-là.
Est-ce que tu pourrais aussi nous parler des répercussions ou des effets de cette plus grande visibilité de l'itinérance pour les services et les organisations?
Bien, sur cet aspect-là, bien, il y a du positif et il y a du négatif qui en ressort. Il y a eu une certaine, et là je mets l'emphase sur certaine, donc une certaine reconnaissance d'un besoin de mettre en place des services pour pallier le manque de place, d'hébergement ou d'endroits juste pour se reposer, se réchauffer, etc., qui a amené un investissement de la part des bailleurs de fonds. C'est qu'on parle du fonds vers un chez-soi COVID du fédéral, de fonds provenant du réseau de la santé au provincial, mais aussi il y a eu une panoplie de financements de divers acteurs publics et privés, dont les municipalités. Donc même si ces financements-là étaient et sont toujours imparfaits, c'est-à-dire temporaire, à date d'échéance, à court, moyen terme. On va de prolongation en prolongation. Ça ne permet pas aux organismes de voir à plus long terme pour leurs projets, puis pour assurer aussi une stabilité puis une continuité à leur personnel. Ça ajoute aussi une multiplication de redditions de comptes. Donc, malgré tous ces bémols-là, qui sont pas banals, c'est quand même important de nommer ou de reconnaître que les fonds ont permis ben, de mettre sur pied ou d'adapter des services pour les personnes en situation d'itinérance pendant la crise. La visibilité de l'itinérance a aussi amené l'implication de nouveaux partenaires dans certains cas. Entre autres, les municipalités qui étaient plutôt à l'écart de manière générale quand il était question d'itinérance, ben ils se sont retrouvés plus vivement interpellés. Puis ça a fait naître dans plusieurs secteurs des nouveaux enjeux, ça vient avec ça, en lien avec le partage des responsabilités puis l'imputabilité en matière d'itinérance. Par exemple, l'itinérance relève d'abord du réseau de la santé et des services sociaux parce que c'est un phénomène ou une problématique qu'on qualifie d'abord de psychosociale. Mais, par contre, l'utilisation de l'espace public par les citoyens puis le besoin en infrastructure, en installation sanitaire pour trouver des solutions là, qui sont bon, aussi imparfaites et temporaires bien souvent, ben ça relève du moins en partie des municipalités. Même si ces enjeux-là auraient pu être présents dans un autre contexte, la pandémie, puis ce qui en a découlé, bien, c'est venu mettre en lumière la nécessité d'une responsabilité partagée et collective en itinérance. Et, comme on le disait, ces nouveaux partenariats-là ne sont pas nécessairement toujours simples. Quoi qu'il faut dire quand même qu'à certains endroits, les collaborations se déroulent bien, il y a une belle reconnaissance de la place ou du rôle de chacun des acteurs pour faire face à une problématique complexe comme l'itinérance. C'est important de souligner aussi que la grande visibilité de l'itinérance a cheminé au sein des établissements de santé. On s'est fait dire à plusieurs reprises par des acteurs qu'il y a certaines directions générales qui reconnaissent maintenant l'importance du dossier de l'itinérance puis qui sont plus impliquées. Donc, ça se passe en intersectoriel hein, avec les municipalités ou la sécurité publique et tout ça, mais ça se passe aussi à l'intérieur même du réseau de la santé.
Et du côté de la communauté, quelles ont été les répercussions les plus importantes de l'augmentation de la visibilité de l'itinérance?
Du côté des réactions de la communauté, ben ça a été plutôt diversifié. On a parfois assisté à une plus grande solidarité de la part des citoyens. Il y a eu des prises de conscience sur la vulnérabilité d'une certaine portion de la population, puis il y a des citoyens, puis des commerçants qui sont venus en aide aux personnes en situation d'itinérance et de pauvreté pendant la crise, entre autres par une abondance de dons, là, parfois, entre autres de nourriture dans certains secteurs. Mais plus souvent qu'autrement, puis plus particulièrement dans les milieux urbains, il y a des enjeux de cohabitation qui se sont installés ou qui ont pris de l'ampleur au fil du temps. Ce qu'on appelle parfois là, le pas dans ma cour. Donc, on a vu des pressions citoyennes sur les ressources d'aide, sur le réseau de la santé, puis sur les municipalités aussi pour régler le problème, entre guillemets. Et ça a parfois mené à des pratiques répressives là, de déplacement et de délocalisation des personnes, puis au démantèlement des campements, entre autres. Et c'est important de se remettre dans le contexte où les gens occupent l'espace public en n'ayant pas accès à des services pour subvenir à leurs besoins de base, ce qui peut effectivement créer des situations dérangeantes. Par exemple, l'enjeu de l'accès à l'eau puis aux installations sanitaires, ça a été au cœur du discours des personnes qu'on a rencontrées en entrevue. On se rappelle que les commerces non essentiels y ont été fermés à certains moments. Le port du masque est en vigueur depuis plus d'un an. Maintenant, on a le passeport sanitaire, donc c'est toutes des embûches aux stratégies habituelles des personnes pour accéder à des installations sanitaires. C'est certain que si les gens n'ont pas accès à une toilette à proximité, eh bien, ça mène nécessairement à des comportements que les autorités puis les citoyens vont considérer comme des incivilités. Est-ce qu'on peut blâmer les familles de ne pas vouloir que des inconnus fassent leurs besoins dans la ruelle derrière chez elles ou dans le parc au coin de la rue? Bien sûr que non. Mais comment les personnes en situation d'itinérance pourraient faire autrement si elles n'ont pas accès à quelque chose d'aussi essentiel, de base, qu'une toilette? Poser la question, c'est un peu y répondre. Puis cet exemple-là, c'est juste pour illustrer la nature des enjeux, puis comment ces enjeux-là de cohabitation peuvent devenir aussi des enjeux de collaboration, puis des enjeux politiques. À noter que dans certaines villes puis certains secteurs, il y a eu des initiatives qui ont vu le jour pour tenter de calmer le jeu, pour conscientiser à la fois les citoyens puis les personnes en situation d'itinérance pour favoriser un meilleur vivre ensemble. Par exemple, il y a eu des corvées de nettoyage, la présence d'agents pacificateurs, etc. Mais c'est loin d'être gagné, surtout qu'un mouvement de gentrification qui est à l'œuvre là, dans plusieurs villes du Québec, puis ça, c'était là bien avant la pandémie. Donc, la place des personnes en situation d'itinérance puis leur visibilité dans ces espaces publics-là, ça va être probablement un sujet chaud dans les prochains mois puis les prochaines années encore. En fin de compte, la pandémie, ça va avoir seulement été que l'accélérateur, comme pour bien d'autres choses.
Merci beaucoup, Stéphanie, pour tes explications concernant le vivre ensemble et les enjeux de cohabitation. Avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu voudrais aborder?
Pour finir, peut-être deux éléments. Ces tensions-là, puis tout le contexte-là qui entoure la plus grande visibilité de l'itinérance, ça vient ébranler la représentation sociale de l'itinérance. On assiste carrément à un retour en arrière. On est revenu dans plusieurs secteurs à voir plus que jamais la personne itinérante comme l'indésirable qu'on doit cacher, qui devrait même pas exister à la limite. On a entendu des choses comme « Zombieland » pour parler d'un secteur où les personnes occupent la rue, puis ça a circulé dans les médias. Donc, la pente va être abrupte à remonter, puis il va y avoir un immense travail de concertation, de collaboration, de sensibilisation aussi à faire pour rapiécer la solidarité autour de l'itinérance. D'autant plus, et ça c'est mon deuxième élément, que la visibilité semble prendre moins de place dans l'espace médiatique, mais sans pour autant disparaître du terrain. Comme si on s'habituait en quelque sorte à voir l'itinérance. Donc, c'est fragile la visibilité de l'itinérance. D'un côté, ça peut être bon, puis de l'autre, ça peut nuire. Puis quand on s'y habitue, on l'oublie. Et ça vient avec le risque que les décideurs et les bailleurs de fonds aussi l'oublient. Donc, il faut se questionner sur comment maintenir la visibilité du phénomène social de l'itinérance, tout en évitant de nuire aux personnes directement concernées et aux organisations qui leur viennent en aide.
Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette présentation. Je pense que tu as vraiment fait le tour de plusieurs des points saillants en lien avec la question de la visibilité de l'itinérance, autant les apports de cette visibilité-là que les impacts qu'on pourrait voir un peu plus négatifs. Alors, je te remercie beaucoup et à bientôt, j'imagine.
Merci, Guylaine.